la plus élémentaire, la norme du relativisme, ce qui veut dire...
Débat qu'il voulait mener.
En livrant un certain nombre de confidences ou de confessions ou d'aveux à propos de, je sais pas, de mes goûts, de mes couleurs, de mes préférences, je peux donner des armes aux gens qui utilisent contre la sociologie ce qui est l'arme la plus élémentaire, l'arme du relativisme, ce qui veut dire votre description, votre système explicatif est biaisé par le point de vue que vous occupez dans l'espace social. Donc, alors qu'en réalité, je pense que tout le travail scientifique est un travail à la fois sur l'objet, un travail de recollection de données, d'interviews, d'enquête, d'analyse, etc. Et tout le travail sur l'observateur, qui est un travail de critique, d'exploration des adhérences, enfin, à l'objet, d'exploration même du plaisir qu'on peut avoir avec l'objet, toute cette espèce de travail aboutit qui est la condition du discours scientifique, peut être détruit par cette espèce de relativisation simpliste. On peut dire, c'est un point de vue de prof ou de ci ou de ça, il parle plus comme avant depuis qu'il est au Collège de France, des âneries comme ça.
Extrait d'un bon plaisir qu'on pourra entendre de nouveau en entier dimanche sur France Culture entre 14h et 17h, qui avait été réalisé il y a de cela près de 12 ans par Pascal Casanova. Donc nous allons essayer, non pas dans la sécheresse, mais dans une relative neutralité, je ne veux pas employer le mot objectivité, de reconstituer le corpus, comme disent les disciples de Pierre Bourdieu, de la vie du professeur au Collège de France. Il l'était depuis 1981, et il continuait à animer, on le sait, une direction d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Dans quelle discipline, sociologie, philosophie? Maintenant, on va commencer par poser, si vous le voulez bien, Frédéric, cette question, en remontant aux origines, aux héritages dans le rationalisme français des années 50-60, qu'a rencontré le jeune Pierre Bourdieu, normalien de la rue d'Ulm. La première intervention, c'est une intervention de Philippe Reynaud, qui est un adversaire historique de Pierre Bourdieu, professeur de philosophie politique à Paris 1.
Lui-même, d'ailleurs, ne se définissait pas comme philosophe, mais je crois qu'il a eu l'honnêteté d'expliquer assez bien sa formation dans un de ses derniers ouvrages, Les Méditations pascaliennes, où on voit très bien, disons, qu'il est très représentatif de sa génération de normaliens, qui est évidemment engagé à gauche, qui par ailleurs commence à être un peu fatigué de l'héritage phénoménologique et de l'existentialisme sartrien, et qui est fasciné par tout ce qui se présente comme porteur de rationalité, de systématicité, qui est fondamentalement bachelardien, dans l'interprétation qui va être celle du cerf de Bachelard, c'est-à-dire celle qui insiste sur la coupure entre le savoir scientifique et la conscience commune ou le sens commun. Et tout cela, à mon avis, fait quelque chose qui est très proche de ce que sera ou de ce qu'a été Louis Althusser, qui est un penseur un peu des mêmes années d'ailleurs, avec simplement une originalité chez Bourdieu, qui est une originalité stratégique, qui est l'idée que au lieu d'être un historien de la philosophie parmi d'autres, un commentateur, il va déplacer une problématique très semblable à celle de ses contemporains vers la sociologie.
Parce qu'on les reconnaissant souvent, Philippe Reynaud, à Pierre Bourdieu, d'avoir passé des limites entre les sciences humaines, l'ethnologie, la sociologie, l'histoire, encore que la longue durée l'intéressait modérément. Vous dites qu'il est plutôt conscient de ses limites et c'est pour cela qu'il fait des sciences humaines?
Je pense que dans le fond, il devait en être conscient. Et d'autre part, les limites dont vous parlez entre la sociologie et l'histoire et l'ethnologie, il n'est pas le seul à les avoir déplacées. Et je ne connais pour ma part aucun grand sociologue dans la tradition qui n'ait eu rapport privilégié avec l'histoire depuis Weber ou Durkheim.
Voici maintenant un autre point de vue, c'est celui de Dominique Collat, qui est professeur à Sciences Po, qui a étudié beaucoup le léninisme. Il l'a critiqué comme autoconsécration par l'avant-garde, qui se considérait comme mandataire de la classe ouvrière. Il a retrouvé la même critique de l'autoconsécration du mandataire chez Pierre Bourdieu.
Bourdieu a en partie constitué son œuvre de sociologue dans une rupture avec la philosophie, mais aussi en utilisant certains des moyens intellectuels que la philosophie lui avait apportés. Alors, je crois que un des aspects qui a fait débat dans l'œuvre de Pierre Bourdieu est l'importance même qu'il accordait à la sociologie. Pierre Bourdieu était un intellectuel critique, mais sans doute qu'il considérait que c'était la sociologie qui devait conduire elle-même et en premier le travail critique, plus sans doute que la philosophie. La position du philosophe comme à la fois détenteur du savoir et comme celui qui a en dernier lieu la clé de la compréhension du monde, cette position, on pourrait dire que Pierre Bourdieu n'était pas loin de l'adopter. Et si on pouvait le comparer à une autre figure, c'est peut-être à celle de Sartre. C'est évidemment deux intellectuels d'un tout autre style. Bourdieu n'a pas d'œuvre littéraire au sens classique du terme, même si on peut trouver une grande qualité à son style, d'autres le trouvent un peu hermétique à certains moments, mais enfin, de toute façon, ce n'est pas un écrivain comme l'était Sartre, et son engagement politique n'a jamais été de la même nature que Sartre. Mais il a une volonté de parler, une volonté de théoriser sur le monde et de faire en quelque sorte de la sociologie le dernier recours, comme Sartre faisait de la philosophie le dernier recours.
Althusser, Sartre, les références viennent quasi naturellement. On pourrait ajouter, on en parlait beaucoup ces temps-ci sur France Culture, le nom de Foucault. Alors pour éclaircir ce paysage contrasté, voici le témoignage après celui de Dominique Collat, interrogé par Tara Schlegel, qui fournit un enseignement à ses étudiants sur Bourdieu. Voici le témoignage depuis l'université de Philadelphie, où il a consacré mardi dernier un séminaire à Bourdieu, de Roger Chartier. Vous m'entendez, Roger Chartier?
Oui, bonjour, Jean Lebrun.
Bonjour, je vous annonce que à partir de lundi prochain, je l'annonce surtout à nos auditeurs, parce que vous ne serez pas rentré en France, France Culture rediffusera dès 8h30 le matin les entretiens à voix nue que vous aviez menés naguère avec Pierre Bourdieu. Oui, je faisais la référence à Foucault, que vous avez connu aussi. Foucault, c'est un philosophe qui part de base historique, qui fournit ensuite un matériau aux historiens, aux spécialistes des sciences humaines, mais qui considère toujours la philosophie comme ayant le point de vue le plus élevé et qu'il maintient et qui doit être maintenu un peu isolé. Alors, qu'en est-il de la problématique de Bourdieu, dont Collat vient de nous dire qu'au fond, il a remplacé la philosophie par la sociologie, peut-être?
Écoutez, je voudrais dire que peut-être pour répondre à la question en disant aussi l'émotion, parce que comme vous l'avez rappelé, il y avait un rapport proche avec Pierre Bourdieu. Nous avions eu beaucoup de conversations, dialogues sur la chaîne, aussi de rencontres dans des colloques, et j'avais été toujours frappé par le fait de la proximité et en même temps de la différence avec ce qu'il voyait être le travail des historiens. Je crois que pour Bourdieu, je relisais en attendant cette émission le livre que je trouve le plus profond, peut-être le plus personnel, qui est les méditations pascaliennes. Le mot histoire, historicité, historicisation est absolument omniprésent. Pour lui, il n'y a pas de pensée, ni de la raison scientifique, ni de la catégorie de l'universel, en dehors de l'histoire qui conduit à l'élaboration de ces catégories, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont réduites à n'être que des catégories relativistes, mais qu'elles ont leur propre développement. Donc je crois que même si Bourdieu, moins sans doute que Foucault, lui-même a écrit historiquement et sur des périodes historiques anciennes, en fait sa pensée est profondément marquée par cette recherche de des conditions historiques, c'est-à-dire pour lui sociales, qui façonnent des individus, dessinent des espaces sociaux ou élaborent les concepts, et pour lui ceux de raison ou d'universel étaient essentiels, mais à condition de les comprendre.
Alors vous parlez d'espaces sociaux qui sont des endroits où s'exercent des luttes de force. Un des concepts clés, c'est Roger Chartier, celui de champ, et il s'intéresse en particulier, comme vous d'ailleurs, au champ culturel, au champ intellectuel, à la sociologie de la littérature par exemple.
Absolument, et là je pense que le concept de champ complexe, élaboré, était aussi une manière de reprendre en charge des perceptions aiguës d'auteurs anciens. Si vous me permettez, trois lignes de Pascal. « Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans la recherche de l'esprit. La grandeur des gens d'esprit est invisible, au roi, aux riches, aux capitaines, à tous ces grands de chair. La grandeur de la sagesse est invisible aux charnels et aux gens d'esprit. Ce sont trois ordres différents de genre. » Et cette citation que Bourdieu fait dans les méditations pascaliennes conduit directement à l'idée selon laquelle le monde social est organisé par des espaces spécifiques qui n'ont pas tous les mêmes principes de classement, de hiérarchisation, de polarisation, où ce qui est un intérêt fondamental dans un de ces espaces devient sans importance dans un autre. Et c'est comme cela que dans les nombreux travaux qu'il avait consacrés au champ culturel, champ littéraire, champ artistique, champ intellectuel, il montrait qu'on pouvait les comprendre souvent comme un monde économique à l'envers, et que ce qui était une force du capital économique, accumulation monétaire, réussite sociale mesurée en termes de consommation, devenait des valeurs sans grande importance à l'intérieur de ce champ où d'autres principes régissaient les hiérarchies, ce que vous appelez à juste titre les conflits et les tensions.
Je vais faire intervenir là, Roger Chartier, mon compère Frédéric Carbone, qui reste avec nous jusqu'à 19h30 dans cette émission spéciale consacrée à Pierre Bourdieu. Frédéric Pierre Bourdieu considérait certains de ses livres comme ésotériques. C'est le cas des méditations pascaliennes. Et il le disait d'ailleurs avec un certain plaisir. Et néanmoins, certains de ses concepts ont pénétré très très profondément jusque dans les couche moyenne de l'intelligentsia. Tout à l'heure, on entendait un de vos interlocuteurs parler du champ du RPR ou bien du champ du MEDEF, de même la notion de capital symbolique. D'autres notions clés de Bourdieu ont pénétré profond.
Oui, l'héritier, la reproduction également, mais je voudrais demander à Monsieur Chartier, qui connaissait bien Pierre Bourdieu, justement toute cette réflexion sur le champ intellectuel, sur le champ culturel, sur ce qui était le champ de Bourdieu, la place de Bourdieu. Est-ce que c'était aussi une façon pour lui de savoir quelle était sa place à lui?
Oh, écoutez, je pense qu'une des tensions, parce que je me souviens aujourd'hui de cet homme qui était un homme brûlé par une passion de la connaissance, qu'il appelle dans beaucoup de ses livres libido sciendi, le désir du savoir, qui pour lui identifiait la recherche scientifique, était aussi un homme traversé, déchiré par le fait qu'il était un individu secret, privé, intime, comme vous et moi, mais qu'aussi dans les descriptions, et vous le rappelez à juste titre, qu'il faisait du champ culturel ou du champ intellectuel, il était un de ses propres objets.
Il s'interrogeait sur lui-même, j'imagine, avec ses ouvrages, avec ses recherches.
Absolument, un livre qui est tout à fait frappant de ce point de vue-là, c'est le livre qui était intitulé Homo Academicus, qui était une description du champ universitaire, ici strictement défini, et dans lequel il disait à son début qu'il était très difficile d'écrire ce type d'ouvrage parce que celui qui en était l'auteur se trouvait, comme il dit, gagé et engagé dans le champ même qu'il décrit et doit donc, dans un sens, s'objectiver, être un objet face à son propre regard. Et de là, une très grande tension, je crois, qui m'avait souvent fait penser dans les rencontres que j'ai eues avec Bourdieu à certaines des pages de Rousseau, divisé en quelque sorte entre Jean-Jacques et Rousseau, c'est-à-dire un individu qui a des sentiments intimes, qui a des secrets ou des blessures, et d'autre part, quelqu'un qui est construit en dehors de lui-même par, dans le cas de Rousseau, le monde, ses adversaires, ses ennemis, et dans le cas de Bourdieu, par le sociologue Bourdieu, qui inclut dans sa description les positions, les trajectoires de lui et de ceux qui pouvaient lui être considérés comme semblables. Je crois qu'il y a une clé très profonde pour comprendre certaines manières d'écrire,
Et peut-être Roger Chartier aussi certaines manières d'être, parce que quand je vous entends, j'ai l'impression que vous faites un lien entre ce Bourdieu s'interrogeant pendant des décennies sur le champ culturel, sur le champ intellectuel, et donc sa place à lui, et le Bourdieu années 80-90, on en parlera longuement après évidemment, mais le Bourdieu qui s'engage dans l'action, c'est peut-être là le lien qu'il est.
Oui, je pense que le lien existe là. Il existe aussi dans cette critique radicale qu'il faisait de ce qu'il appelle la position scolastique, c'est-à-dire un rapport désintéressé à la connaissance. J'évoquais tout à l'heure cette libido sciendi, ce désir de science, il le respectait en tant que tel, mais en même temps, pour lui, cette connaissance devait être mise au service d'une réflexion pratique, d'une action. De ce point de vue-là, il y aurait, même si les méthodes, les manières, peut-être les engagements étaient différents avec Foucault, la même idée que le savoir produit des instruments qui peuvent être maniés pour créer un rapport moins dépendant, moins soumis au monde.
Et la même radicalité nécessaire du coup.
Oui.
La même obligation.
Avec peut-être une différence, c'est le fait que pour Bourdieu, en tant que sociologue, le savoir qu'il produisait pouvait donner des instruments pour mieux comprendre le champ dans lequel il était, champ intellectuel, mais en même temps aussi, dans tout l'héritage de la sociologie française, le champ social dans sa plus grande globalité, et de là ses engagements plus immédiatement et plus globalement politiques des dernières années, alors que vous vous souvenez que Foucault s'engageait le plus souvent sur des thèmes et des terrains qui étaient plus étroitement liés à certains de ses travaux de recherche, l'hôpital psychiatrique,
la prison,
etc.
Merci Roger Chartier de votre intervention de l'Université de Philadelphie. Je rappelle donc qu'on retrouve vos entretiens avec Pierre Bourdieu à partir de lundi sur France Culture à 8h30. Les outils, les instruments de connaissance du champ, quand on entendait les émissions consacrées à Foucault il y a quelques semaines, on voyait comment il était parti à la recherche des archives, des lieux qu'avaient parcouru les hommes qu'il avait redécouverts vivant dans les archives, l'élargissement des connaissances de la sociologie. Bourdieu le faisait pratiquer à ses étudiants par le travail d'enquête. Vous me direz que ce n'était pas le premier professeur de sociologie à faire cela, que je sais pas, Louis Chevalier, professeur au Collège de France, en personne n'a parlé de la disparition, on voyait, il y a 40 ans, ses étudiants devenir chauffeurs de taxi dans l'agglomération parisienne au prix parfois de leur vie. Dieu merci, à Loïc Vacant, il n'est pas arrivé les mêmes mésaventures qu'à certains étudiants de Louis Chevalier dans Le Bon Plaisir de Pierre Bourdieu de 1990, qui sera lui rediffusé dimanche après-midi sur France Culture. Il évoque comment son maître l'avait envoyé dans un endroit inattendu.
Depuis Chicago, Loïc Vacant dit aussi « Busy Louis ».
Ayant été formé par Pierre Bourdieu, je ne pouvais pas travailler sur le ghetto sans le connaître de première main. Et donc, pour le connaître de première main, je me suis mis à me promener dans ces quartiers très, très dévastés et très déprimants. Et pour rencontrer des jeunes du ghetto et un peu savoir qu'est-ce qui s'y passait, je me suis inscrit dans un club de boxe. Et je ne connaissais absolument rien à la boxe, vraiment rien du tout. Et je n'ai aucune prédisposition physique, ça je peux vous garantir, pour faire de la boxe. Mais je me souviens, j'avais écrit à Pierre Bourdieu, j'avais trouvé ce gymnase et que j'avais commencé à prendre des notes. Et bien, j'ai juste écrit « C'est formidable, continuez, vous allez apprendre plus sur le ghetto en traînant dans ce gym de boxe qu'en lisant toutes les statistiques du monde et en regardant toutes les enquêtes faites précédemment. »
Alors, la sociologie du sport, ça peut être la sociologie de l'aristocratie, c'est parfois, c'est pas toujours le meilleur de l'œuvre des disciples, la sociologie des religions, ça peut être la sociologie de la musique. On entend Vivaldi tel que ne l'aimait pas Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu disait, à un moment, dans certains milieux, on a découvert, redécouvert Vivaldi comme une curiosité muséologique. Dans d'autres milieux, plus tard, Vivaldi a fini comme musique d'ascenseur ou de monoprix. « quand on dit musique, sociologie de la musique. Pierre-Michel Minguère, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, alors Pierre-Michel Minguère, si on faisait une émission avec Bourdieu, il m'aurait déjà expliqué ce qu'il fallait que je dise de vos titres et ce que je ne dise pas, parce qu'il y a des choses inutiles, il y a des choses utiles, selon l'avancement du débat, à 18h40. Qu'est-ce qu'il faut dire? Que vous êtes un disciple inachevé de Pierre Bourdieu, un élève qui a pris un autre chemin, le continuateur dans un centre de sociologie qu'a fréquenté longtemps Pierre Bourdieu, d'un certain type de travail qu'il avait abandonné?
Je dirais que j'ai rencontré son œuvre et que j'y ai pris ce qu'il fallait y prendre de mon point de vue, et que ensuite j'ai été à l'école des études l'un de ses collègues, et que la science ou la recherche scientifique avance avec des personnalités marquantes qui font date, et que pour moi la sociologie n'est pas seulement un sport de combat et qu'il n'y a pas de victoire dans la sociologie ni de défaite. Et en ce sens-là, je dirais il faut saluer une œuvre exceptionnelle d'un grand sociologue.
Vous n'avez pas suivi ses pistes en matière de sociologie de la musique? Après, on va revenir sur le cadre général.
Non, j'avais trouvé, évidemment, ce qui était très séduisant pour un jeune philosophe comme je l'étais, et c'est vrai que Bourdieu est très profondément un philosophe, beaucoup plus complexe que les éléments qu'on a restitués très brièvement ici, mais c'est vrai que le mélange que représentait l'œuvre de Bourdieu, qui empruntait à la fois la phénoménologie husserlienne, à la fois la tradition rationaliste classique de Leibniz et de Kant, et un certain structuralisme qui venait d'ailleurs que du structuralisme qu'on connaît, c'est-à-dire de Cassirer ou de Panofsky, et qui combinait tout ça en même temps avec une critique du scientisme et une épistémologie à la Bachelard, ça avait un côté évidemment très séduisant pour un jeune philosophe. Et l'autre aspect qui est très profond dans son œuvre, qui est très présent et peut-être même excessivement présent, c'est l'ambition très systématique, c'est-à-dire une explication totale avec, en quelque sorte, la découverte d'une loi de la gravitation sociale universelle, comme je crois il l'a dit un jour. Ça, c'était vrai que ça c'était extrêmement séduisant.
Mais alors, c'était pas le nom de Raymond Aron dans le laboratoire auquel vous appartenez, l'héritier, et dont Pierre Bourdieu aurait pu être le continuateur?
Aron a certainement joué beaucoup un vrai rôle. Il a à la fois parrainé les débuts de Pierre Bourdieu, parce qu'il était, je pense, tout à fait admiratif de son talent, et en même temps, ils ont eu ensuite une divergence très profonde. Aron portait en lui une double culture, qui était celle de la philosophie allemande et de la sociologie allemande d'un côté, et une philosophie, une sociologie américaine, celle que Bourdieu n'a jamais aimée. C'est vrai qu'Aron a joué un rôle important dans les premières années de Bourdieu. Ce laboratoire qu'Aron dirigeait a essaimé ensuite quelqu'un qui a été par exemple aussi très important dans l'œuvre de Bourdieu, Jean-Claude Passeron, qui a accompagné toute la première partie de l'œuvre. Ça, je tiens beaucoup à insister sur cet aspect-là. La première partie de l'œuvre de Bourdieu est une œuvre collective aussi, en ce sens que Bourdieu est un primus inter pares peut-être, mais que c'est une activité collective avec un sentiment relativement égalitaire entre tous ceux qui travaillent. Et il y avait une éthique du travail dans un laboratoire. Il faut voir à quel point c'était une ruche qui produisait des enquêtes les unes après les autres, et où les responsabilités étaient partagées entre plusieurs.
C'est-à-dire que ce qu'il définissait comme l'amitié entre intellectuels et l'exercice spirituel, ça peut être davantage régné dans la première partie de sa vie qu'à la fin, où le nombre de ses disciples était pourtant beaucoup plus grand.
Je pense qu'il y a eu deux temps effectivement assez clairs, c'est-à-dire que jusque au milieu des années 70, ce fonctionnement de laboratoire a été extrêmement intense, et ensuite on a vu, à la faveur de l'élection au Collège de France, au fond le groupe se disperser et une collectivité plutôt de disciples se reformer autour de Bourdieu pour pratiquer un autre style de travail, certainement. Mais Bourdieu lui-même avait une influence qui avait essaimé, donc il n'avait peut-être plus envie ou le besoin de ce genre de ressources. Les autres ont continué plus ou moins bien leur activité. Passeron lui-même, qui est, je pense, un personnage clé dans cette histoire, a lui-même eu une trajectoire très différente.
Alors Passeron, on l'entendait ce matin dans l'émission de Sylvain Bourmeau, peu après l'annonce de la disparition de Pierre Bourdieu, il avait, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Frédéric, publié avec Bourdieu un peu avant 68, Les Héritiers, qu'on lisait dans les amphithéâtres de la Sorbonne avec beaucoup d'application et de dévotion. Il n'avait pas abandonné l'examen du monde de la vie et des carrières universitaires, en témoigne un volume qu'il a signé seul, Homo Academicus, qu'il évoque ici dans son Bon Plaisir de 90.
pour un homo academicus comme moi, dans l'univers majeur des contraintes et dans l'univers académique. Bon. Et aussi étonnant que ça paraisse, lorsque les intellectuels font de la critique des idées des autres, ils diront « bouilliste, l'intellectuel bourgeois », etc. Ils diront jamais « c'est un professeur de géographie ». Bon. Ou c'est un professeur de philosophie qui a fait ses études dans les années 50. Bon. Or, c'est là que sont les vrais déterminismes. Bon. Enfin, disons les déterminismes les plus spécifiques, ceux qui parfois vont jusqu'au cœur de ce qui est vécu comme une singularité, comme une originalité, enfin, ce à quoi est attaché l'idée de personne, etc. etc.
Voilà, vous croyez singulier, et en fait, vous appartenez à un champ, Pierre-Michel Menguer.
Oui, ça c'est un aspect de l'œuvre de Bourdieu. C'était un homme de science, c'est un homme public, on le verra plus tard, mais c'était aussi le membre d'une communauté scientifique qui aspirait à la décrire. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui voulait à la fois montrer que chacun est le produit d'un certain nombre de déterminismes sociaux et que le sociologue peut se regarder lui-même dans ce propre monde pour essayer de s'en dégager et se situer au-delà. C'est très difficile à faire, mais il l'a fait avec une âpreté et parfois une violence tout à fait caractéristique. Et il a décrit ce propre milieu qui était par exemple l'école des hautes études en homo academicus d'une manière extrêmement surprenante, en quelque sorte en objectivant ce monde-là et en inventant des formules pour situer sa propre position qui est une position improbable, c'est-à-dire comment peut-on être à la fois dans le jeu et en dehors du jeu. C'est cette chose-là qui est difficile à penser à travers des formules paradoxales du genre intérêt au désintéressement qui a été en quelque sorte une signature d'une posture scientifique, comment être dans un monde et en dehors de ce monde pour l'objectiver sans que ce travail d'objectivation soit lesté lui-même par les forces qui l'agissent, puisque lui-même n'est qu'un agent social qui est donc poussé par des intérêts particuliers. S'il était là, il nous dirait, mais que faites-vous là? Est-ce que vous êtes habilité à parler de moi? Est-ce que vous ne vous grandissez pas en parlant d'un homme qui est grand?
Mais c'est quoi alors, pour vous, ça c'est la posture utopique de celui qui est complètement dedans et qui veut croire qu'il représente l'extérieur à l'intérieur de quelque
je
chose?
Je crois que c'est le Chartier l'aurait dit un peu comme ça aussi, c'est une sorte de point aveugle de la théorie qui n'est une solution extrêmement difficile. Comment penser dans des termes relativement déterministes un système social dont chacun est le membre et en même temps le surplomber par ce qu'il appelle la réflexivité, c'est-à-dire le travail sur soi pour inventer les conditions d'un contrôle de sa propre position et de sa propre parole sur le travail qu'on fait. Alors on peut dire que c'est la forme classique de qu'est-ce qu'apporte la connaissance? C'est un supplément de lucidité sur ce qui se passe, mais on ne s'exonère pas du jeu social. Il a pensé ce problème-là dans toutes ses dimensions parce que c'était quelque chose qui l'obsédait. Je pense même que c'est une des explications, et Chartier l'avait dit aussi, de sa tension intérieure extrêmement forte. On ne se sort pas d'un jeu social dans lequel on est. De même que, je pense, on le redira plus tard, on n'invente pas une politique scientifique parce que on ne sort pas d'un jeu de ce type-là.
Mais excusez-moi, mais c'est une question que Bourdieu n'aurait absolument pas aimé, mais ça veut dire il l'aimait ou il l'aimait pas ce monde-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là?
Écoutez, je pense que dans la leçon qu'il a faite au Collège de France et à laquelle j'ai assisté, j'ai été très troublé par le fait que il y avait une sorte de peut-être un peu de pessimisme radical dans une partie de son œuvre ou de sa façon de vivre dans le monde, et je me suis demandé si au fond le fait d'être en société n'était pas pour lui vécu comme un drame fondamental, au sens où on ne se sort pas des situations d'inégalité, de comparaison envieuse, de pesanteur des déterminismes, et il n'y a pas de salut au sens théologique ou chrétien du terme qui nous permettrait de penser à un horizon libre où tout irait très bien.
On ne sort pas du jeu social dans lequel on est, vous dit Pierre-Michel Menguer. Nous avons en ligne Jean-Pierre Collin, qui a été conseiller du ministre de la Culture qui était naguère Jacques Lang, qui vient de publier, et dans la revue Commentaire et aux éditions Georg en Suisse, une brillante réflexion sur la réforme de l'université. Lui, Jean-Pierre Collin, bonsoir Jean-Pierre Collin.
Bonsoir.
Croit s'en sortir par la distance. Il est dans sa maison à la campagne, entouré par son jardin Champagne. Vous croyez vous en sortir par la distance et par l'insolence, Jean-Pierre Collin?
Peut-être, je suis un peu ému parce que j'ai engagé une polémique avec Pierre Bourdieu, que d'ailleurs je ne connaissais pas personnellement, et l'ouvrage est sorti hier en librairie, donc naturellement j'en éprouve une certaine émotion.
Mais alors qu'est-ce que vous disiez dans l'analyse du monde universitaire qui recoupait ou contredisait le travail de Pierre Bourdieu?
Oui, c'est-à-dire que Pierre Bourdieu avait commencé à s'intéresser au système universitaire lui-même. Il avait publié il y a peu de temps un opuscule avec quelques-uns de ses amis où il faisait de l'université actuelle en France un diagnostic implacable. Je pourrais vous dire à quel point il montrait, par exemple, que les conseils étaient l'instance de la grande désillusion, comment les universitaires éprouvaient face à ce parlementarisme du pauvre un véritable écœurement, et ainsi de suite. Hein. Et comment les conseils de l'université, écrivait-il, étaient devenus la chose de quelques enseignants constituant une nomenclatura souvent prisonnière de ses affinités politiques, dont les joutes hautement ritualisées entre groupes disciplinaires ou syndicaux sont arbitrées par un président pour qui le véritable interlocuteur est en réalité le ministère. Donc je puis dire que cet opuscule m'a inspiré dans mon travail. Mais effectivement, les solutions proposées ne sont pas à la hauteur du diagnostic.
C'est-à-dire ?
Ben moi, je plaide, si vous voulez, comme beaucoup d'universitaires aujourd'hui, pour une université autonome, des universités autonomes, qui aient vraiment les moyens de leur autonomie, en particulier une autonomie financière, qui leur permettrait d'avoir une politique propre. Alors que Bourdieu proposait la recentralisation du système, hein, avec en tête un peu l'image d'une république platonicienne, hein, ou en définitive une autorité indépendante, dont on imaginait volontiers qu'il lui présidait, eh bien, aurait rétabli l'agrégation dans toutes les disciplines, nommé les jurys, et de la sorte, si vous voulez, introduit une sorte d'homogénéité inquiétante dans le corps universitaire. Donc c'est vrai que sur ce point, je me suis permis d'engager une polémique, où je voyais, dans le fond, une pensée unique d'une autre sorte se dessiner.
C'est-à-dire que il pratiquait, selon vous, dans les solutions conservatrices, au fond, qu'il proposait pour l'université l'autoconsécration du mandataire qu'il critiquait dans les groupes sociaux qu'il observait.
Oui, un petit peu. Hein. En définitive, ces critiques le conduisaient à penser que quelques intellectuels de haut niveau devaient repenser le système et puis engager eux-mêmes des réformes avec leurs disciples. Je me suis permis d'écrire que d'une certaine façon, cette forme de pensée vient à considérer que, je dirais, le concept ne veut voir qu'une seule tête. Ce qu'on peut, j'admets tout à fait les magnifiques éloges qui viennent d'être prononcés, mais on peut regretter peut-être que Bourdieu ne soit pas davantage ouvert à la discussion avec les gens qui n'aimaient pas, de droite comme de gauche d'ailleurs. Il y aurait eu, dans le champ de la sociologie, probablement un grand intérêt à ce qu'il y ait davantage de discussions.
Alors, est-ce que là, je vais poser la question que vous lancez, vous restez en ligne, oui. Jean-Pierre Collin, depuis votre maison de Champagne, à Pierre-Michel Minguer, comment peut-on critiquer Bourdieu? Parce que Bourdieu lui-même posait des conditions à l'acceptation des critiques qu'on pouvait lui faire.
Je pense qu'on peut le critiquer en concevant tout simplement et dans l'esprit d'une épistémologie qu'il aurait certainement à laquelle il aurait souscrite, hein, en élaborant les conditions d'un débat scientifique normal. Je pense que la tension interne de la personnalité de Bourdieu, qui était très sensible, l'a souvent conduit à penser que les sociologues qui ne pensaient pas forcément de la même manière que lui étaient des adversaires et que la sociologie, comme il l'a dit peut-être de manière amusante, était un sport de combat, ce qui donnait à la relation qu'il y avait entre lui et les autres une tournure tout à fait particulière. Je l'ai souvent regretté, mais c'est vrai que le temps était venu et viendra aussi où on s'appropriera cette œuvre, on la discutera complètement et il y a de quoi discuter et c'est formidable. C'est
ça le travail scientifique. Moi-même tout à l'heure présentant Philippe Reynaud qu'on va entendre, j'ai eu le tort de le présenter comme un adversaire historique de Pierre Bourdieu. Ça fait partie de la théâtralisation des médias, parce qu'il faut quand même dire un mot, là, Frédéric Carbone, de ce thème récurrent, notamment les dernières années de la vie de Bourdieu. Le travail scientifique doit se frayer un chemin entre la pression académique, telle que vous l'avez décrit, Jean-Pierre Collin et Pierre-Michel Minguer, et pression médiatique. Et alors, il cherchait à garder la maîtrise de l'intervention face à ces deux pouvoirs contraires.
Oui, il cherchait. Bah, c'est-à-dire que Pierre Bourdieu, il ne participait à des émissions que à condition que ce soit une émission où il y ait évidemment le temps de la discussion. Il ne demandait pas, d'ailleurs, on le voit bien dans le film que lui consacrait Pierre Carl, il ne demandait pas les questions avant, il ne demandait pas orienter le débat, il demandait juste d'avoir le temps de l'expression. Et à ce titre-là, il y avait une certaine humilité à participer à quoi ? Une émission sur Radio Droit de Cité à Mantes-la-Jolie pendant une heure et demie, où c'est assez fascinant parce qu'il se retrouve face à des journalistes qui ne lui posent pas du tout les questions avec la manière journalistique classique. Je veux faire semblant d'être au courant, je veux faire semblant de savoir, je veux faire semblant de partager avec vous des connaissances, je veux savoir un peu de vous, et je vous pose des questions infiniment dérangeantes à ce titre-là. Et c'est dans cette émission, sur une toute petite radio associative de Mantes-la-Jolie, qu'il dit la sociologie est un sport de combat, et comme par hasard, c'est quand même une expression que tout le monde aujourd'hui a repris. Pour la contester, pour la débattre, c'est dans cette émission-là qu'il dit ça. Il y a un rapport de Bourdieu aux médias qui a quelque chose de fécond aussi et qui appelle en tout cas à s'interroger.
Vous voulez, puisque vous parlez de Mantes-la-Jolie, qu'on écoute ici un reportage qui a été rapporté par la rédaction de France Culture. C'est quelqu'un qui a participé à une confrontation difficile dans cette radio avec Pierre Bourdieu, qui s'exprime.
Pas dans cette radio, c'est dans un débat public ensuite avec des associatifs, avec des habitants de la cité. C'est une personne qui s'appelle Saïd Baïj qui était là dans la salle, qu'il a interpellé violemment. Vous êtes sur votre siège, vous bougez pas, vous n'avez rien à nous dire. Bourdieu lui a dit, bah si j'ai des choses à te dire, je peux t'apprendre des choses sur toi. Après ils se sont revus, après ils ont rediscuté et on a retrouvé Saïd Baïj tout à l'heure à Paris. Il habite à Paris et c'est Clémence Denavy qui l'a rencontré.
Tu es arrivé, on était à Mantes, donc avec tout son contexte, c'est-à-dire il a été invité par des élites locales, intello, tout ce que vous voulez, qu'ils l'ont ramené. Nous, on n'était pas au courant. Le sujet, c'était les inégalités culturelles et éducatives dans les banlieues. Je pensais que ce sujet nous concernait déjà, nous qui vivons là-bas, quoi. Il y avait un grand paradoxe dans cette salle. C'est-à-dire, nous qui vivons dans ces lieux, j'ai vu aussi qu'il y a des gens, entre guillemets, qui contribuent aussi à ce que nous, on régresse. En même temps, ils sont là pour ce beau sujet. Vous voyez ? Donc, j'ai essayé d'expliquer ça à Bourdieu. Donc, en même temps, c'est vrai, c'était un moment chaud. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de m'exprimer déjà, vous savez, puis rentrer dans un contexte comme ça de foule, avec un grand personnage. Oui, on m'a compris, il a très bien compris, c'est un personnage étrange, hein. Il est pas évident. Hein. Je pense que c'est dommage qu'on n'a pas pu avoir plus de relations. Il est spécial, Bourdieu. Hein. C'est pas comme moi, hein. Moi, je suis là, blablabla, je suis ouvert. Et moi, je sais qui c'est. Parce qu'après, il est venu à mon expo au mois de mars. Il est venu, il m'a surpris, il est venu à la fin. Le dernier jour, il est venu comme un chat. Oh, je me suis retourné, il était derrière. Ah, il est quand même venu à l'expo, ouf. Tu vois, voilà, après on a discuté, il a vu. Déjà, bon, c'est bien quoi, il m'a encouragé quoi. Après, je l'ai revu cet été. Là, c'était plus convivial parce qu'on était partis à la journée, on a mangé ensemble à midi, au réfectoire. Mais c'est quand même, c'est un personnage quoi, je sais pas, c'est pas Jacquard. Hein. Ouais, Jacquard, lui, peut-être il s'exprime plus ou... un Théodore Monod, c'est entre les deux, quoi. Et c'est un côté réservé. J'ai pas eu vraiment assez de temps avec lui. C'est un bonhomme, quoi. C'est un cerveau sur pattes. Le gars, il a trop encaissé. Toi, peut-être quelqu'un qui est blasé. Moi, j'aurais bien voulu discuter avec lui. Bon, moi, d'où je viens, l'éclat que je suis et l'éclat qu'il est, à un moment donné, on s'est rencontrés, mais c'était éphémère, quoi.
Alors, quel que soit Jean-Pierre Collin, dernière intervention de votre part depuis votre maison en Champagne, les critiques qu'il fait de la télévision, Pierre Bourdieu, par Saïd, est reconnu à l'égal des vedettes de la télévision.
Oui, mais j'avais assisté en 1994 à l'inauguration du centre de recherche d'école de journalisme de Lille, où Pierre Bourdieu était l'invité d'honneur. Et alors, il avait ouvert les travaux en exposant ses thèses, qui, entre nous, étaient assez peu gratifiantes pour les journalistes, hein, qui étaient nombreux dans la salle. Et après les cours magistrales, l'un des journalistes, qui appartenait d'ailleurs à la rédaction de France Inter, m'en souviens très bien, a pris la parole et a dénoncé assez vivement le manque d'expérience de l'orateur. Un peu sur le ton de l'émotion. Hein. Et alors, le président de séance est tourné vers Bourdieu pour lui donner la parole. Et dans un silence pesant dont je me souviens, il a regardé longuement son contradicteur et puis il a fait un signe au président de séance en lui disant qu'il n'entendait pas répondre à cette intervention de quelqu'un qui était pourtant un professionnel et visiblement de bonne foi. Donc il y a là quand même un problème, ce qui n'empêchera pas Bourdieu de publier 2 ans plus tard son ouvrage sur la télévision, sur l'emprise du journalisme.
Voilà, dans cette petite collection qui était fort efficace, il avait trouvé des moyens d'intervention, à la fois la confluence du pamphlet à l'ancienne du XVIIIe siècle, de l'époque de Rousseau, et du digest pour lecteurs innombrables du XXe siècle finissant. Alors s'il est populaire auprès de Saïd et de beaucoup d'autres, dirait Philippe Reynaud, on va l'entendre une nouvelle fois, ce professeur de philosophie politique que je ne présente plus comme un adversaire historique de Pierre Bourdieu, c'est que au fond la démarche, notamment dans les dernières années, sa démarche correspond à une demande, à une attente d'une classe intellectuelle qui, par la démocratisation de l'enseignement, s'est multipliée. Alors on en arrive comme ça insensiblement, alors que moi je voulais parler beaucoup du Bourdieu débutant, à celui qui s'engage dans les années 90, Philippe Reynaud. Venons-en, Philippe Reynaud, à l'intellectuel engagé. Est-ce que Pierre Bourdieu représente une figure semblable à celle de l'intellectuel engagé d'après-guerre? Est-ce qu'il ressuscite la figure de l'intellectuel critique par rapport à ce que seraient des intellectuels nouvelles manières qui tâteraient, comme vous, de l'enseignement, du journalisme, des médias et de l'académie en même temps?
Bon, d'une part, pour ma part, je ne crois pas être vraiment un homme de médias. Le fait d'être d'avoir pour métier d'enseigner est assez fréquent chez dans la corporation des intellectuels. Non, ce qui me paraît plutôt original dans la figure de Bourdieu, c'est le fait que pendant très longtemps, il a voulu avoir un mode d'intervention différent de celui de l'intellectuel engagé, sartrien, parce qu'il se cantonnait dans son empire académique, très soigneusement bâti, et que c'est à partir de là qu'il développait une théorie critique de la société, qui a d'ailleurs beaucoup d'intérêt à certains égards, mais sans s'engager tellement sur la place publique. C'est un progressiste sans engagement de premier plan, même s'il y a une signification politique évidente de ses œuvres. Ce qu'on oublie peut-être trop souvent, c'est le fait que dans le courant des années 80, disons à la fin des années 80, je crois, il s'était rapproché de beaucoup d'autres intellectuels, disons de la gauche de la gauche non communiste ou même de la gauche antitotalitaire, en donnant un petit peu dans le soutien à Solidarnosc, et il y a même des textes d'une certaine époque qu'on a beaucoup oublié, qu'on a largement oublié depuis, qui pouvaient passer pour un peu rocardien.
Alors que s'est-il passé, Philippe Reynaud, qui l'a fait basculer dans un camp si critique qu'il accepte mal l'idée de réforme, l'idée de représentation traditionnelle?
Moi, je crois que là, c'est pour parler comme lui, c'est une logique de positionnement. C'est que à partir d'un certain moment, la figure, disons, de l'intellectuel réformiste est tellement banale qu'elle cesse d'en être intéressante. Et d'autre part, la disparition de Sartre et de Michel Foucault a laissé un vide qu'il est opportun de remplir. Et bien entendu, pour raisonner comme Pierre Bourdieu lui-même, la sincérité est un excellent moyen de s'investir dans des causes qui sont par ailleurs appropriées à vos intérêts sociaux.
Oui, alors là, parlons toujours comme lui. Là, vous décrivez la structure de la situation intellectuelle où il agit, mais il prend acte aussi de potentialités inscrites dans les groupes sociaux. Les potentialités ont changé dans les années 90 du fait de la crise, qu'on se souvienne de l'effet qu'a produit sa description de la misère du monde.
Oui, mais ça, justement, la misère du monde, je trouve, c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il a réussi à faire la synthèse polémique entre deux problématiques qui initialement paraissent divergentes ou peut-être même opposées, qui sont la vieille problématique de la lutte de classe et celle de l'exclusion. Je crois que c'est ça le coup de génie de la misère du monde. C'est que on peut dire que le thème de l'exclusion apparaît et se développe quand on cesse de croire au socialisme comme moyen de résoudre l'ensemble des problèmes sociaux, et lorsque l'intérêt se déplace depuis la classe ouvrière organisée le mouvement ouvrier, etc., jusqu'aux nouvelles franges de l'exclusion, de la misère extrême, et de gens qui ne relèvent pas d'une analyse classique de l'exploitation. Avec la misère du monde, il a réussi, je dirais, à traduire dans un langage plus classiste une problématique qui était plutôt celle de l'abbé Pierre que celle des révolutionnaires.
Alors bon, Pierre Bourdieu plus proche de l'abbé Pierre que des révolutionnaires. Et qu'est-ce qu'on entendait tout à l'heure que dans ce qu'il faut considérer comme la dernière partie de sa vie, Pierre Bourdieu signait moins de livres en collaboration qu'autrefois. Ben non, La misère du monde, vous êtes en ligne, Patrick Champagne?
Oui.
C'est un livre co-signé par Pierre Bourdieu et vous-même?
Ben oui, largement, pas seulement moi. Enfin, nous étions, je crois, une vingtaine de collaborateurs à avoir travaillé collectivement, sous sa direction bien sûr, mais collectivement, chacun apportant ce qu'il avait à apporter dans son domaine, à ce travail collectif qui s'inscrivait de toute façon dans une continuité par rapport à ce qu'a été, parce que à ce qu'a toujours été finalement le souci de Bourdieu et d'un certain nombre de sociologues, d'ailleurs il n'est pas le seul à avoir partagé ça, qui était le souci de rendre à la société les travaux qui étaient faits sur elle et pour lesquels l'État payait un certain nombre de gens, les sociologues qui sont des fonctionnaires d'État, il y avait ce souci de rendre, mais sous quelle forme pouvait-on rendre des travaux scientifiques à des non-scientifiques? Je crois que c'est une obsession qu'il a toujours eue et qu'il a essayé de traduire de diverses façons et dont La misère du monde s'inscrivait tout à fait dans cette forme d'invention pour essayer de rendre accessible des travaux qui étaient menés souvent depuis plus de 10 ans par divers chercheurs travaillant avec lui dans le cadre du centre.
Patrick Champagne, avait-il également là-dedans une volonté de donner la parole, de rendre la parole? Est-ce que c'était une de vos démarches?
Ah bah c'est tout à fait, j'allais dire, une des problématiques de ce livre, qui était d'essayer de faire entendre autre chose que ce qu'on entendait, c'est-à-dire le discours politique d'un côté, et puis ce qui semblait être le discours, j'allais dire, de la population à travers les sondages de l'autre.
C'est-à-dire, pour recadrer le discours politique de l'époque, on n'en était pas encore à fracture sociale, on en était après les nouveaux pauvres. C'est un peu ça.
Vous savez, je rentrerai pas moi dans le détail de l'analyse. Je laisse à chaque lecteur le soin de lire ou de relire ce qui a été écrit à l'époque. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre a été conçu dès le milieu des années 80. C'est-à-dire une époque où personne ne parlait de ces choses. Il a été réalisé de manière concrète entre 90 et 93. Et c'est vrai que si en 95 le travail de Pierre Bourdieu et ses collaborateurs a été cité, c'est que ce qui avait été fait dans La misère du monde était un peu, j'allais dire, prémonitoire de thèmes qui sont devenus aujourd'hui beaucoup plus banal et accepté comme tel.
Justement, c'est une vraie question, ça, Patrick Champagne. Vous parliez d'un livre en réaction à un certain type de discours politique, et d'une certaine manière, ce livre, il a produit aussi après un certain type de discours politique.
Bien sûr, mais un des problèmes, de la sociologie, c'est de rendre au plus grand nombre les résultats de la sociologie pour que chacun puisse se réapproprier, en quelque sorte, les armes que la sociologie peut donner pour vivre dans le monde social, et que il y a une espèce d'idée, j'allais dire, de démocratiser en quelque sorte les résultats scientifiques de la sociologie. Alors c'est vrai que c'est quasiment une utopie, c'est très compliqué, très difficile, mais je pense que le succès même qu'a remporté ce livre, dans lequel beaucoup de gens qui n'étaient pas exprimés se sont sentis exprimés, beaucoup de catégories, enfin le nombre de témoignages qu'on a eu est tout à fait extraordinaire, enfin de gens qui nous remerciaient de livrer enfin quelque chose qu'ils n'entendaient pas et qui était leur vérité, ne montre qu'on n'a finalement pas si mal touché ce qu'on cherchait à faire avec ce livre.
Je vous remercie, Patrick Champagne, merci beaucoup.
Alors l'écho de Pierre Bourdieu, à partir de ce moment, se répercute, notamment dans les milieux culturels. On sait que La misère du monde a été donnée à France Culture, interprétée moult et moult fois par des troupes de théâtre dans tous les lieux alternatifs qu'on nomme maintenant les friches, et puis, bien sûr, dans le milieu universitaire. Le reportage qu'on entend maintenant, Frédéric, c'est...
On va
c'est le témoignage d'un étudiant en sociologie.
Comme il y en a des milliers, des dizaines de milliers en France, un étudiant qui a d'abord entamé ce qu'on appelle une vie active avant de revenir à la sociologie, aux études, par la découverte d'ailleurs de Bourdieu. Il raconte à Christine Monclat son rapport à ses écrits, comment ses écrits ont influencé sa volonté de faire de la sociologie humaine et humble, comme il le dit, c'est Sylvain Drécourt.
Ce matin, j'avais des partiels, j'avais mon dernier partiel qui portait sur l'histoire des médias au XXe siècle. Et ce matin, en conclusion de mon travail, je l'ai cité. Et en sortant de l'examen, j'ai eu un message sur mon portable qui m'a appris la mort de Bourdieu. Voilà, donc triste coïncidence.
Comment on s'attaque à un texte de Pierre Bourdieu, quand on est étudiant en sociologie ?
Avec énormément de difficultés, et après, ça devient peut-être un habitus. Comme lui le disait si bien, quand on joue au tennis, la raquette nous apparaît comme une espèce de protubérance étrangère à notre corps, et après, un entraînement long, laborieux, fastidieux, on fait un revers sans même y penser, et la raquette est devenue le prolongement de notre bras. Je pense que d'aborder et de lire Bourdieu participe de ça. C'est-à-dire qu'au début, c'est difficile. Au début, c'est laborieux, et après, c'est clair, et plus c'est clair, plus ça devient riche. Et je m'aperçois, en ouvrant des livres 2-3 ans après, comme j'annote énormément mes livres, qu'il y a plein de points d'interrogation en marge qui aujourd'hui ont disparu.
Alors je crois qu'un jour, Pierre Bourdieu a croisé par hasard le chemin de l'étudiant en sociologie que tu es.
Oui, ou plutôt l'inverse, plutôt l'étudiant en sociologie qui a croisé par hasard le chemin de Bourdieu. Et donc, je me suis permis de l'arrêter parce que, pour lui dire simplement que c'est grâce à lui que j'avais fait de la sociologie. Étant un étudiant âgé, ayant eu d'autres activités avant de faire des études, il a été pour moi, en fait, il représente dans une de ses théories une espèce de donnée aberrante, ce qui est assez paradoxal, c'est-à-dire que, il mettait toujours en exergue le poids des structures contraignantes sur les individus et l'illusion que l'on laissait avoir aux gens qu'ils étaient libres et qu'ils décidaient de manière totalement individuelle de leur parcours. Et donc lui faisait partie, donc je disais que c'était une donnée aberrante de cette théorie parce que lui était issu d'un milieu plus que modeste, fils de paysan. Et évidemment moi ça m'a parlé beaucoup plus qu'autre chose parce que il représentait pour moi une espèce d'espoir. C'est-à-dire que il était un espoir parce que lui s'était extrait de cette position sans l'avoir oublié, je pense. Et c'est une des choses qui faisait qu'il mettait son savoir au service des autres. Et c'est moi ce qui m'a permis aussi de me dire que avoir conscience d'où on vient permet de s'en extraire et permet aussi de donner conscience aux autres de s'en extraire.
Alors Frédéric Carbone et Pierre-Michel Maguire, vous insistiez sur la tension entre deux Bourdieu et moi, sur les différences qu'il y a entre plusieurs Bourdieu selon le temps, selon l'écho qu'ils rencontrent. Après ce tout jeune étudiant, voici, à votre gauche et en face de Pierre-Michel Maguire, Tassadit Yassine, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Qui a participé à cette émission qu'on rediffusera, le Bon Plaisir, il y a une dizaine d'années, avec Pascal Casanova et Pierre Bourdieu, rediffusion dimanche 14h-17h. Mais en fait, Tassadit Yassine, vous connaissez Pierre Bourdieu depuis encore beaucoup plus longtemps. Alors, quelle est l'unité entre ce personnage fractionné dont Philippe Reynaud nous tentait une description de milieu de vie comme un réformiste et une description de fin de vie comme un extrémiste? Mais alors, quel était-il au début quand vous l'avez rencontré? En quoi vous paraît-il semblable d'un bout l'autre?
Écoutez, moi, je crois que vous faites bien de dire qu'il était semblable. Bon, finalement, chacun de nous le voyait à travers, j'allais dire, le prisme déformant de ce que peut être finalement la fonction que les uns et les autres occupent. Et moi, je crois que c'était quelqu'un qui, dès le départ, était marqué politiquement. On peut dire qu'il était marqué à gauche. Donc déjà, dès son terrain en Algérie, même si sa prise de position au niveau politique n'était pas publique, dans son travail, déjà, on voyait qu'il avait le souci de la domination, mais surtout de la colonisation comme domination extrême, et on va le trouver, ce souci-là, jusqu'à la fin de sa vie. Donc l'Algérie a été un moment fondateur dans sa vie, et dans son œuvre. Et je crois que, ayant à la fois des soucis de carrière et en même temps habité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par une tension, d'ailleurs, à son dernier cours au Collège de France, il parlait de contradiction et de tension. C'est-à-dire qu'il jouait constamment entre cette tension et la contradiction, donc, qui habitait le sociologue. Donc, on va retrouver ça tout au long de son œuvre. Et moi, je crois que, il a pu se libérer totalement du souci scientifique, c'est-à-dire du souci académique, que ces dernières années. Donc ces dernières années, il a pu s'exprimer pleinement. Donc ça, c'est vrai que sa première prise de position publique, ça a été avec Michel Foucault, donc à propos de la Pologne. Donc depuis, c'est devenu un homme public au niveau politique. Et ces dernières années, moi je crois que il sentait que sa carrière, en fait, il avait fait entièrement carrière et que cette carrière était brillante, entendue au niveau plus international que l'autre, parce que là aussi, il y a un problème avec la France. Donc, il s'estimait non reconnu par, enfin, en tous les cas, par le milieu scientifique français. Donc, ce qui peut expliquer justement ce problème dont parlait Monsieur Menger tout à l'heure, discussion possible. Mais je crois que cette difficulté peut-être à accepter la critique, bien que je ne sois pas d'accord, parce que avec les gens en qui il avait confiance, il acceptait la critique. Il revenait souvent, des fois, sur ses propres contradictions.
Alors, deux points, là, que vous avez soulevés, et on peut faire intervenir sur ces points, Pierre-Michel Menger. On parlera de nouveau de l'engagement politique, de l'habileté avec laquelle il le limitait aussi.
Oui.
C'était pas lui qui allait être candidat à des élections. Mais revenons sur la réception en France. Un instant, Pierre-Michel Menger, Louis Pinto, qu'on entendait dans le journal de la rédaction ce midi, dans son livre sur Bourdieu chez Albin Michel, qui se veut une réponse aux détracteurs, dit que les conditions de la réception de Bourdieu en France ont été navrantes.
Écoutez, il a quand même été au Collège de France, il était passé par les institutions les plus prestigieuses, qui ne sont pas forcément les plus académiques, ça correspondait bien à son profil, mais il a fait un cursus honorum fantastique pour un homme qui était fils d'un fonctionnaire des PTT dans le Béarn, qu'il soit arrivé à l'école normale, puis à la Sorbonne, après être passé par Lille, puis ensuite au Collège de France, c'était un cursus honorum parfait. En même temps, c'était l'homme de la critique de ces situations et de la critique des institutions. D'une certaine manière, c'est un sociologue de l'État français ou de la puissance de l'État en France et de ses castes. C'est vrai que son livre La noblesse d'État est un livre profondément qui analyse profondément la société française et ses blocages et ses reconstitutions de tiers États, de noblesse, etc. Mais il était tout de même arrivé à la consécration la plus grande. Donc il a toujours été tout de même aussi quelqu'un qui a senti et qui a offert de lui une position de en quelque sorte d'incompris. Et en ce sens-là, il a un côté profondément Rousseauiste, c'est-à-dire quelqu'un dont on ne peut pas imaginer à quel point on devrait le reconnaître pour ce qu'il est sans arrière-pensée.
Deuxième
situation impossible d'une certaine manière.
Deuxième point qu'abordait Tassadit Yassine, les circonstances et les formes de son engagement politique récent. Nous avons Annick Coupé du syndicat Sud en ligne. Vous m'entendez?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. On disait à l'instant, juste avant que vous n'interveniez, Annick Coupé, que Pierre Bourdieu était quand même assez habile dans ses interventions politiques, comme l'est un certain syndicalisme ou comme l'est le mouvement Attaque dont on parle beaucoup maintenant, pour ne pas s'inscrire dans une démarche partisane, pour surprendre aussi ses admirateurs en n'allant pas aussi loin que certains de ses admirateurs le voudraient. Il n'allait pas intervenir dans les grands scrutins nationaux à venir à la manière d'un candidat ou d'un partisan. Il lui était arrivé de soutenir Coluche, cependant, une fois.
Non, je crois que ce qui intéressait Pierre Bourdieu, c'est que c'est un peu ces mouvements sociaux qui, ces dernières années, sont apparus. Je pense au mouvement des chômeurs, je pense ce qui s'est passé en décembre 95 avec ces manifestations, ces luttes, ces débats dans les villes, etc. Ou un mouvement comme ACT UP qui l'intéressait beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans l'institution. Et son soutien aux mouvements sociaux importants de ces dernières années était à la fois un soutien très intéressant et qui nous apportait beaucoup, qui nous faisait chaud au cœur, et en même temps c'était toujours un soutien avec un regard critique. Et ça, je pense que c'était très bien, y compris pour nous.
C'est-à-dire que dans ce mouvement de 95, il venait, y compris en faisant la leçon, entre guillemets, et en vous, pas vous apporter un soutien béat et bêlant.
Justement, il ne faisait pas la leçon. Et en même temps, il ne faisait pas un soutien condescendant. C'est-à-dire que c'était un vrai soutien, mais il était capable d'être critique, par exemple sur le syndicalisme. Il avait des mots parfois qui pouvaient être durs, mais qui étaient à mon sens assez justes, c'est-à-dire qu'il obligeait ces mouvements qu'il soutenait à s'interroger eux-mêmes, à essayer d'aller plus loin. Il était, disons, je pense qu'il avait une certaine rigueur dans sa pensée scientifique et que cette rigueur, il ne l'abandonnait pas quand il soutenait, quand il apportait son soutien à des mouvements.
Dernière question, Annick, coupé dans la ligne de celle de Frédéric Carbone, il lui est arrivé, pas devant Sud, de dire à des interlocuteurs constitués en groupe, j'en sais plus que vous. Alors ce qui est à la fois très beau, parce que c'est la reconnaissance que, je sais pas, on peut parler du communisme sans être communiste, de la foi sans être croyant. En même temps, c'est aussi se placer dans une certaine tradition. J'en sais plus que vous, je peux me mettre à ma place et vous dire où est la vraie voie.
Non, mais moi je l'ai jamais ressenti comme j'en sais plus que vous. C'était simplement, moi j'ai acquis une expérience scientifique réelle, et au nom de ça, je peux avoir des choses à vous dire, mais c'est à vous de prendre ces choses et de les transformer, de les utiliser ou pas. Et en ce sens-là, il n'était pas le maître à penser ou le donneur de leçons. Je crois qu'au contraire, c'était je vous donne des choses, c'est aussi à vous de vous en emparer.
C'est facile à prendre au début, ça, où on a un mouvement de rejet par rapport à ce type de démarche, justement.
Bah, écoutez, moi j'ai connu...
Ça met en danger un peu.
J'ai rencontré Pierre Bourdieu en décembre 95 à la gare de Lyon au meeting de soutien aux cheminots. Franchement, je n'ai pas eu de difficulté à engager un débat avec lui et qui s'est poursuivi dans les années qui ont suivi à l'occasion de différentes rencontres, colloques, rencontres informelles, etc.
Merci de ce témoignage, Annick Coupé. Je vous coupe la parole, mais c'est pour la donner à une autre femme. Donc, je ne suis pas susceptible de critique, de domination masculine excessive. Tassadit Yassine, j'en sais plus que vous sur vous.
Oui, alors j'en sais plus que vous. Moi, je crois qu'il faut, comme Bourdieu, c'est-à-dire qu'il faut replacer ça dans son contexte. Or, le contexte dans lequel ça a été dit, moi je crois que c'était par rapport à ce jeune maghrébin qui justement l'avait remis en place et que j'en sais plus que vous, ça voulait, d'ailleurs il l'a dit par la suite, j'en sais plus que vous sur ce que sont vos origines. Et donc lui, enfin, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a cette histoire d'habitus, habitus individuel et habitus collectif, c'est-à-dire que si vous en êtes à cette situation où vous ne savez pas structurer votre discours de contestation, donc de revendication, c'était par rapport à... Mais moi, je peux vous apporter toute votre histoire qui est l'histoire, pas seulement de l'immigration, mais l'histoire nord-africaine. Donc c'est dans ce contexte bien précis que Bourdieu a dit « j'en sais plus que vous ». Et enfin bon, je crois qu'il ne faut pas en faire un slogan.
Je comprends donc mieux la continuité. Il cherchait dans la paysannerie du Béarn, objet de ses tout premiers textes, dans l'Algérie que vous connaissez, j'allais dire mieux que lui, Tassidit, Yassine, la parole des exclus, quoi, des sans-voix.
Ben, tout à fait. Donc il fait le lien justement... En parlant d'immigration, ça veut dire qu'il connaît très bien d'où viennent ces immigrés, c'est-à-dire que il a travaillé quand même sur le prolétariat en Algérie, c'est-à-dire qu'il a, et sur le monde paysan. Donc il a analysé les conditions réelles dans lesquelles vivaient ces gens. Et moi, pour reprendre le fil, justement, si on mettait côte à côte travail-travailleur en Algérie et la misère du monde, eh bien on voit que Bourdieu revient, je veux dire, presque à ses premières amours, c'est-à-dire à comprendre le désenchantement de cette catégorie.
Alors voici un témoignage qui va dans le même sens, c'est celui de Dominique Collat, qui, quand il compare terme à terme les textes sur l'Algérie et les textes les plus contemporains de Bourdieu, va même plus loin que vous dans le temps, puisque il observe les textes sur la mondialisation des tout derniers mois.
En relisant ce soir dans le Monde un texte qu'il a donné il y a 2 ans dans le contexte de la lutte contre ce qu'on appelle la mondialisation, j'ai été frappé par la proximité de certains aspects de ce texte avec ce qu'il écrivait dans la sociologie de l'Algérie en 1958. Il y a chez Pierre Bourdieu de façon constante une grande méfiance à l'égard des mécanismes de médiation, de représentation, de délégation. Et pour lui, donner à quelqu'un d'autre la parole en son nom, se faire représenter, c'est quelque chose qui est marqué négativement. De la façon dont il décrit dans la sociologie de l'Algérie certains aspects de la société kabyle, où il parle d'une démocratie vécue, on voit une sorte d'idéal d'une société d'un petit nombre où les individus sont dans des relations de face à face, d'échange. Et incontestablement, si cela peut paraître paradoxal, pour ma part, un des maîtres de Bourdieu, je crois, c'est incontestablement Rousseau.
Rousseau qui aurait aimé les assemblées de villages kabyles, que connaît bien Tassadit Yassine. Pierre-Michel Minguer, vous avez déjà prononcé le mot de Rousseau, d'ailleurs.
Oui, je pense que c'est une référence qui vient à l'esprit de beaucoup de gens.
Ça n'est venu à la pensée d'aucun des politiques, ils sont innombrables, ceux qui ont réagi, y compris le président de la République et même le RPR, cette comparaison n'est venue à l'esprit de personne.
Mais chez Rousseau, tout le jeu social est opaque, le mensonge, y compris le mensonge à soi-même, ce qu'on appellera plus tard la mauvaise foi sartrienne, l'intérêt, les inégalités règnent partout et rongent le corps social. Et la seule solution que Rousseau propose, c'est en quelque sorte de faire résonner en soi l'intérêt général. Je pense que c'est une idée, mais ça concernait des tout petits mondes sociaux, le canton de Genève, la Corse, pour laquelle Rousseau avait fait des projets de constitution. Et Rousseau était foncièrement pessimiste dans sa vision du monde, mais il avait l'idée qu'une petite communauté dans laquelle le jeu social serait assez transparent serait peut-être la seule situation ou société vivable. Peut-être que Bourdieu a trouvé dans les communautés de mouvements sociaux quelque chose de cet ordre-là, où il se retrouvait davantage que dans une offre politique qui, évidemment, pour lui, était probablement l'empire des pouvoirs qui s'arrogent tout et qui sont arbitraires et déstructurants. Je pense que dans la vision de Bourdieu, il se peut qu'il y ait certainement du pessimisme de Rousseau, c'est-à-dire que quand l'homme entre en société, il entre en concurrence avec les autres, il entre en lutte, et qu'il n'y a pas d'égalité parfaite.
C'est ce qu'il trouvait, la légalité, peut-être, avec des gens dont le corpus universitaire n'a rien à voir, le capital culturel n'a rien à voir. Il voulait y voir une forme d'égalité.
En même temps, vous voyez bien qu'il ne pouvait pas se satisfaire d'adhérer à un mouvement puisqu'il le critiquait aussi.
Sauf que ce jeu de
réflexivité infinie empêche finalement d'adhérer à quoi que ce soit. C'est ce qui rend l'exercice incroyablement acrobatique et probablement terriblement tendu en soi, puisqu'on n'a pas de cause à laquelle souscrire. Sinon, quand on y souscrit, on est tenté de la prendre en main, donc de la dévier de son trajectoire et de laisser son intérêt parler sur l'autre, etc. C'est une situation presque une aporie, comme on dirait en philosophie.
Et pour reprendre, pour finir, l'exemple, puisqu'il y a là une grande continuité bourdieusienne des assemblées kabyles, on voit bien que actuellement, après avoir été ressuscitée, avoir fonctionné, elle débouche face à la domination de l'État en Algérie sur une manière d'impasse, comme d'ailleurs les formes de contestation politique que défend Pierre Bourdieu, qui ne peuvent pas avoir de débouché immédiat tant l'horizon est illimité.
Ben oui, il ne peut pas avoir de débouché parce que, comme justement pour reprendre ces termes, il faut qu'il y ait adéquation entre la base et le sommet. Donc autrefois, les assemblées kabyles fonctionnaient parce qu'elles étaient dans une autonomie par rapport à l'État. Or, aujourd'hui, l'État, comme on l'a vu justement dernièrement en Kabylie, l'État se sert de ces assemblées, mais sans jamais les écouter. Donc c'est la relation entre assemblée et État qu'il faut réviser. Moi, je crois qu'il a été effectivement fasciné par le mode de fonctionnement de la société kabyle, tout en sachant que c'est impossible. Et là, je reviens justement au pessimisme qu'il habitait, mais là, cette tension entre le désir de vouloir faire quelque chose, d'adhérer à un parti, comme vous le dites, et en même temps le critiquer, moi, je crois que c'est l'illustration de l'intellectuel dans sa dans l'absolu, en quelque sorte. Adhérer à quelque chose, ça serait renoncer à son esprit critique et sa vision du monde qui est autrement très complexe.
Il y a peut-être une forme plus moderne de l'intellectuel critique à inventer. Pour finir, Pierre-Michel Minguer.
Le problème est de savoir si quand on entre dans le monde politique, ce qui n'a pas toujours été le cas de Bourdieu, on peut créer se structurer une vision du monde qui soit uniquement une vision du déséquilibre ou de l'inégalité radicale sans proposer un modèle d'équilibre quelconque, c'est-à-dire un modèle qui débouche sur quelque chose, qui débouche sur un fonctionnement plus harmonieux de la société. Dans quelles conditions peut-on l'énoncer? Je pense que Bourdieu ne n'avait pas l'idée de quelque chose de cet ordre-là. Et donc, ça entrait en conflagration radicale avec n'importe quelle offre politique possible.
Alors, vous savez que nous autres journalistes, Frédéric Carbone, nous avons des soucis qui ne sont pas ceux de l'exercice spirituel scientifique tel que l'imaginait Bourdieu. On cherche quand même des procédés d'unification. Ceci, c'est une musique manouche enregistrée dans le Béarn natal de Pierre Bourdieu. Je voulais signaler que le concert de jazz manouche était donné au Vous Festival le, d'Angoulême, lequel distribue dans 30 secondes ses alfarts.
Vous avez vu que le seul homme politique candidat à la présidentielle qui n'a pas encore réagi, c'est l'autre béarnais.
C'est-à-dire François Bayrou. Ouais, ouais. Mais enfin, Alain Madelin a fait une déclaration.
Non, je ne suis pas très sûr.
Non plus.
Il y en a deux.
Ouais. Alors, vous avez fait perdre mon fil, Festival d'Angoulême,
oui,
Alfarte, et oui. Puis demain, le FIPA de Biarritz, bah oui, parce que la disparition inopinée de Pierre Bourdieu nous a fait interrompre une semaine que nous consacrons à l'audiovisuel. Alors, je rappelle les rendez-vous de demain, nous enregistrons Radio Libre à 15h30 au Casino de Biarritz, et Pot-au-feu à 18h20 au même Casino de Biarritz sera dédié à la pratique du téléspectateur.